alone. Pou-pou-pi-dou.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie, où nous nous retrouvons après ces 15 jours de vacances d'hiver, et ce jusqu'à 10h sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Laurent Léguevac pour son livre qui a un titre plutôt original et avec qui nous allons en parler. C'est « Lettre à mon fils, lui expliquant les excellentes raisons qu'il aura de boire » aux éditions du Cherche Midi. Oui, voilà, je dis bien le nom. Donc bonjour Laurent.
Bonjour Claire.
On en parle dans un instant, mais avant toute chose, je voulais adresser une pensée toute particulière à Denis Sigur et à sa famille. Denis qui nous a quittés brutalement samedi dernier. Alors auteur de recueils de nouvelles, petit traité de savoir-vivre à l'usage de ceux qui vont mourir, et également crise de foi, foi et foi. Il était venu en parler à Page à Page, ici, sur Radio Occitanie, nous les présenter, ces deux recueils, avec toute sa joie de vivre, son humour, sa gentillesse et sa force de Gascon. Hein, il était fier d'être Gascon, Denis. Et puis, il était devenu, au fil des années, puisque moi, ça faisait 3 ans que je le connaissais, je l'avais rencontré au Salon de Montgiscard, au Salon du Livre de Montgiscard, il y a 3 ans. Et puis, au fil de nos rencontres, eh bien, on avait sympathisé, et il était devenu une personne chère pour moi, avec qui j'aimais rire, discuter à bâtons rompus, à refaire le monde, à échanger sur la vie et ses surprises. Et il va beaucoup me manquer, et puis ainsi qu'à tous les autres qui l'appréciaient, et ils sont nombreux. Et je pense que je ferai une émission qui lui sera consacrée dans quelques temps, en compagnie de son ami Gérard Lapagesse, qu'il m'avait d'ailleurs présenté et que j'avais reçu le 24 février dernier, pour son livre « Un scooter d'enfer ». Et d'ailleurs, Denis nous avait écoutés ce jour-là, ce jeudi 24 février, sur Radio Occitanie. Il nous avait dit ensuite que l'émission lui avait bien plu. Et c'était, eh bien, il y a 3 semaines. Et Denis, tes mots et tous nos moments partagés resteront dans mon souvenir et dans mon cœur. Et je ne t'oublierai pas. Et surtout, je suis heureuse d'avoir eu la chance de te connaître, même si ce fut si court. Eh oui. Donc la transition est un peu difficile pour moi, mais bon, la vie continue malgré l'absence et la peine. Alors pour reprendre nos bonnes habitudes, eh bien une petite info, il n'y en aura qu'une seule exceptionnellement, avant de retrouver mon invité Laurent Léguevac. Alors c'est samedi 19 mars à 17h à la librairie Ombre Blanche qui se situe toujours 50 rue Gambetta à Toulouse, et vous pourrez rencontrer l'auteur Alain Légoni et son nouveau livre qui s'intitule « Les animaux sont-ils bêtes ?» point d'interrogation. Donc à découvrir, je rappelle qu'Alain Légoni était venu ici à Page à Page il y a quelques années pour d'autres ouvrages, notamment « Perpète », un livre qui parlait de la prison. Donc voilà, c'est ce samedi à 19 mars, donc à 17h à Ombre Blanche.
Page à page, Claire Ambille.
Pou pou pitou.
Voilà, alors je me tourne vers mon invité, donc Laurent Léguevac. Vous êtes né et vous vivez à Toulouse.
Oui.
Vous êtes marié. Alors je le dis non pas parce que, bon, c'est pas pour la petite histoire, mais enfin, votre femme apparaît dans votre livre, donc c'est pour ça que je le précise.
Oui, c'est un personnage.
Je ne précise pas pour mes invités s'ils sont mariés ou pas, mais là, pour vous, je le dis parce qu'elle est dans votre livre.
Elle est dans le livre, voilà. Oui, c'est vrai.
Et vous avez 2 enfants, 2 fils, hein, notamment, et donc, dont un à qui est dédié le livre, hein, on va le voir dans un instant. Alors, vous avez été journaliste à la Dépêche du Midi pendant vos études de droit, parce que vous avez fait des études de droit à Toulouse. Et puis après, vous êtes entré dans la magistrature, comme on dit, une vaste famille.
C'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais
oui, on va voir un petit peu dans votre parcours, effectivement. Oui. Alors, vous avez été juge d'instruction.
Oui,
au départ, c'est un beau métier. Enfin, je veux dire, c'est.
C'est un métier de voyeur. On rentre dans la vie des gens. On les écoute au téléphone. On leur pose des questions intimes.
Dites dans le livre, c'est un peu, regardez, voilà, la misère, toutes les misères.
Ah, c'est un strapontin depuis lequel on voit toute la misère humaine, toutes les misères.
Affective, sexuelle, matérielle, voilà, toutes les misères.
Et c'est un métier assez atroce puisque ça consiste à juger aussi, tout de même, donc à sanctionner les autres. Je n'étais pas fait pour ça.
À sanctionner, oui, son prochain.
Son prochain, oui, et puis à toujours être dans le reproche et la sanction.
Alors oui. Alors, donc vous avez été juge d'instruction, vous avez exercé à Mâcon et à Tours, hein, avant sûrement de revenir sur Toulouse, j'imagine.
Oui.
Voilà. Et puis, vous avez démissionné en 2004, vous avez claqué la porte du tribunal, on va dire.
Janvier 2005, en fait, c'était tout début 2005, oui, j'ai passé le... J'ai claqué une porte, c'est le mot. J'ai préféré partir.
Vous êtes parti violemment.
Et pour dire tout le mal que je pensais du système judiciaire français, d'ailleurs.
C'est assez rare, quoi, de claquer la porte.
Vous
êtes très peu à l'avoir fait.
À l'avoir fait, oui. Songez que des juges qui ont vécu très douloureux, comme Alphen ou Burgot, même s'ils ne sont pas comparables, évidemment, sont toujours...
Dans l'affaire Doutreau. Hein,
oui, celui de l'affaire Doutreau ou d'autres, mais sont toujours magistrats. Ils restent juges.
C'est
étonnant. Les juges sont des avaleurs de couleuvres, quoi. Ils les avalent, ils les digèrent et ils vivent avec.
Bon, et pas vous. Laurent Leguenal, vous n'êtes pas de ceux-là. Vous n'avez pas voulu vivre avec la couleuvre dans l'estomac.
J'avais la digestion difficile à cause de l'alcool, sûrement.
Alors, dans le même temps, donc, vous avez co-écrit avec Michel Imbarec un livre qui s'appelle « Accusé, couchez-vous ». Et non pas le « Levez-vous ». Voilà, c'est « Accusé, couchez-vous », alors qui est chez Gallimard, édité chez Gallimard et qui a été édité en 2001, version série noire. Collection de séries noires, pardon, c'est ça ?
Oui, la collection de Duhamel.
Et puis donc c'est un livre qui, bon, évidemment, qui vous a valu les remontrances de votre hiérarchie, hein, de la...
Bah oui, ils aimaient pas parce que c'était des silhouettes, c'était de l'ADN de synthèse, mais je mettais en scène des silhouettes croisées dans les palais de justice. Des procureurs méchants,
donc
tout
ils
ça.
Ils se sont reconnus.
Et ils se sont reconnus, il faut croire, puisqu'ils m'ont sanctionné.
Ils
m'ont flanqué un blâme, et ce que j'ai mal supporté, quoi, parce que je me suis dit, j'ai aucun droit que souffrir, quoi. Je peux même pas. Vous voyez, l'écrit, c'est un exutoire. Normalement,
c'est fait pour
exprimer ce qu'on a de charges négatives, tout ça. Et ça, je pouvais pas. J'avais pas le droit sans me prendre un blâme pour, je crois, manquement au devoir de loyauté ou de dignité. Enfin, je sais plus, un truc de juriste. Une obligation stupide.
Donc vous avez continué en fait, hein, parce que vous avez continué à écrire, et notamment donc après votre démission, vous avez publié deux livres, un récit et un essai. Donc le récit, c'est Un juge s'en va, aux éditions L'Archipel en 2005, donc vraiment l'année de votre démission.
Oui, c'est ça. Oui.
Et puis Plaidoyer pour le mensonge chez De Noël en 2008.
Voilà.
Voilà, deux livres aussi où vous...
je me suis défoulé. Je sortais de la magistrature et je pouvais parler. Donc
là, vous vous êtes défoulé.
Alors, peut-être qu'il m'envoie des blâmes, mais dans le vide maintenant.
Voilà, dans le vide, tout à fait. Alors actuellement, Laurent Leguevac, vous enseignez à la faculté de droit de Toulouse.
Oui, je suis...
Vous êtes professeur, donc...
Non, je suis chargé d'enseignement, vacataire,
ce sont des termes. Enfin bon, voilà, vous enseignez à la faculté de droit de Toulouse, vous enseignez donc le droit, quoi, les choses...
Voilà, je donne des cours de droit à des jeunes gens... Passionné,
puis,
évidemment.
Oui, il faut l'être, hein, je pense. Et puis, vous êtes auteur, donc vous écrivez. Alors, justement, dans votre biblio, on note, donc, comme on vient de le dire, Accusé, couchez-vous, mais aussi, donc, comme on l'a dit, Un juge s'en va et Plaidoyer pour le mensonge. Donc, des titres bien, des bons titres. Et bien, alors, je ne parle pas aux femmes, alors j'espère que ce n'est pas vrai. Enfin, d'ailleurs, vous parlez bien, donc je suis rassurée. C'est un roman qui est publié en 2006 chez Les Cahiers du Sud.
Oui, tout à fait.
C'est sur quel sujet, ça ?
Alors, non, en deux mots, c'est l'inverse d'un livre machiste. Hein. C'est un livre qui raconte comment un homme qui s'arrête de baratiner les femmes, de les draguer, rencontre l'amour. Parce que au lieu de...
C'est souvent comme ça, d'ailleurs, non ?
Je suis content de vous l'entendre dire. Donc, au lieu de les draguer, il les écoute. Et
il s'aperçoit... Ça marche mieux.
Et voilà, il s'aperçoit qu'elles sont dignes d'être entendues, tout ça.
Ah oui.
J'ai essayé de construire une jolie petite histoire autour des mots, du verbe et du sentiment amoureux. Voilà.
D'accord. Donc, je ne parle pas aux femmes, voilà.
Je vous l'enverrai.
Ensuite, il y a souffrance. Mais souffrance, alors non, pas avec deux F en un seul mot, sous S-O-U-S, plus loin France, le pays.
Oui, ça c'est une expérience intéressante, plus douloureuse, un écrit plus douloureux, c'était avec Daina Le Guénan, qui était une des victimes de l'atroce Fourniret, le violeur en série, violeur, tueur.
Ah, oui.
C'était la première victime de Fourniret, elle avait 14 ans lorsqu'elle a croisé son, son chemin tragique. Et donc on a, c'était, ça m'a amené à écrire sur le viol, en fait, sur le.
Ouais, c'était un sujet.
C'est un sujet que je connaissais bien en tant que juge, que j'avais douloureusement fréquenté. Et puis voilà, je l'ai retrouvé en tant qu'écrivain, ce qui est une autre approche. C'est un livre d'entretien commenté. C'est une expérience. Je suis ami avec Daïna Le Guénon.
A grandi, donc.
Qui est une maman aujourd'hui, enfin une femme assumée, etc. Femme heureuse d'ailleurs, et mère de famille,
etc. Tant mieux.
Elle a fait beaucoup d'efforts pour se reconstruire en dépit de tout ce qui lui est arrivé. C'est un écrit. Franchement, c'est drôle que vous en parliez parce que d'habitude il passe inaperçu dans les bibliographies.
Ben non, je me suis posé la question parce que.
Oui. Parce que ce qu'on voulait écrire est dit par le titre, souffrance en deux mots, c'est qu'il existe une souffrance, celle des victimes, une sorte de France pas reconnue, pas. Par exemple, les victimes, tout ce à quoi le système judiciaire les pousse, c'est à être haineuses. À devenir aussi méchantes que les auteurs,
que les
auteurs d'infractions,
pour parler comme le code
pénal. Et c'était intéressant de se placer de leur point de vue. C'est une expérience...
qui vous a marqué, visiblement.
Enfin, c'était un écrit...
Qui vous est cher, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis c'était une vraie rencontre, etc. Enfin...
Donc c'était en 2008, donc c'est chez Villèle Éditions.
Oui.
Voilà, donc souffrance. Et puis quelque part, on peut dire aussi souffrance en un seul mot aussi, hein, quelque part.
Parce que
la souffrance aussi que ça a... Ensuite, il y a Justice à tous les étages en 2008 aux éditions de l'Archipel de nouveau. Il y a SMS, Sa Majesté Sarkozy aussi en 2009. Et puis il y a enfin celui-ci que j'ai découvert au salon de Montgiscard, de janvier dernier, où nous sommes croisés effectivement. Et quand je vous avais dit mais ça parle de quoi, parce que le titre m'avait assez interpellée, hein, je le rappelle d'ailleurs, c'est Lettre à mon fils lui expliquant les excellentes raisons qu'il aura de boire. J'avais dit oula, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et je vous avais demandé, vous m'aviez dit, je me rappelle, oh c'est difficile à expliquer. C'est vrai que c'est difficile à expliquer de but en blanc de quoi ça parle. Mais vous m'avez dit bon, c'est l'idée de liberté. Et oui. C'est vrai qu'en fait, et de plaisir hein, aussi. Donc voilà, c'est un livre d'épicurisme, on peut dire, et de liberté, de tolérance et d'humanité.
C'est pas un éloge de l'alcool, vous l'avez compris.
C'est
un éloge de l'esprit de liberté. Voilà, c'est ça que je
veux dire. Voilà, l'esprit de liberté. Et du fait que
d'en faire un outil éducatif, en quelque sorte. C'est-à-dire que le principe de plaisir, l'épicurisme, ou l'hédonisme, c'est un outil éducatif. C'est à transmettre à nos enfants, de toute urgence d'ailleurs.
Tout à fait. Donc c'est aux éditions Le Cherche Midi. Donc il a été publié en mai 2010. Hein, donc c'est tout récent. Et donc on va en parler tout de suite. Hein. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors comme je le disais à l'instant, j'ai beaucoup aimé ce livre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on y apprend plein de choses. J'ai appris plein de choses. Alors je vais pouvoir faire des cocktails. Ça c'est pour le petit clin d'œil. Il y a plein de recettes de cocktails qui ont l'air bien sympathiques. Et puis, c'est bien documenté, mais c'est documenté dans le sens sympathique aussi. C'est pas, il y a plein de listes, on va le voir. Enfin, il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup souri tout au long du livre parce que, dans ce que vous racontez, que ce soit des anecdotes personnelles ou que ce soit des clins d'œil à d'autres choses, c'est drôle. Enfin, il y a beaucoup de choses drôles dedans. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre humour, Laurent. Et puis, je trouve que c'est bien aussi, ce que j'ai aimé, c'est de rendre léger et dédramatiser un sujet qui pourrait être lourd, quoi.
Ah ben, qu'il est la plupart du temps.
L'alcoolisme, l'alcool,
Il faut avoir une vision tragique de l'alcoolique dans le monde dans lequel on vit. Je suis contre ça. Enfin, c'est absurde. La plupart de mes copains aiment boire des coups et c'est des mecs marrants.
À moins d'avoir l'alcool triste pour certains, en général.
Et puis, je sais pas, la vision résumer quelqu'un qui boit à une tragédie, c'est absurde, c'est en faire...
Ça fait du Zola.
Oui, et puis ça fait une vision réductrice de lui, quoi.
Oui, tout à fait. Alors donc, ce livre, vous l'avez dédié à votre fils, donc en mettant « À la tienne, mon garçon hein, ». Il sait que c'est pour lui. Alors, c'est une lettre, c'est un essai, c'est un texte qui lui est adressé. Donc, c'est à l'aîné de vos enfants, donc qui a 16 ans.
16 ans, oui.
Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai demandé hors antenne tout à l'heure, est-ce qu'il a pris sa première cuite? Et vous m'avez dit oui, ça y est, c'est fait. Donc ça va, c'est bon.
Oui, c'est fait. Il m'est arrivé d'aller le chercher à des fins de soirée et j'étais aussi sous que lui, donc c'était assez drôle.
Voilà,
de
donc,
se...
oui.
Non, ça permet de... On parle, on échange.
Oui, bah oui, tout à fait. Ouais, un terrain commun d'entente.
Alors, père-fils.
Voilà, en prélude, il y a une jolie phrase de Molière, extraite du Misanthrope, que j'ai bien aimée. « La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage
avec
sobriété.
Oui. »
Voilà. Alors, ça commence par « mon cher fils », bien sûr, comme toute lettre, on va dire. Mmh. Alors, pourquoi la question que je pose d'emblée, parce que bon, je sais que le temps passe tellement vite et que j'aurai certainement pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Je vais commencer, on va dire, par la question que tout le monde peut se poser. Pourquoi avoir écrit ce livre pour...
Alors, c'est parti d'une réflexion de la mère de Vincent.
D'ailleurs, vous parlez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous parlez souvent de votre femme et donc de...
Oui,
de
bien sûr, parce que les...
Ouais, elle est très présente dans votre
livre. Parce que contrairement à une idée très répandue, une idée moderne, enfin une idée très répandue chez les modernes, les alcooliques ont une famille en général. Et ils l'aiment autant que les sobres, enfin bon, que les non-buveurs, que les buveurs d'eau, comme je dis.
Et votre femme vous aime aussi, même si vous n'êtes pas buveur d'eau.
Ce qui est intéressant dans sa réflexion, c'est quand les gens lui disent, mais Laurent, est-ce que tu ne trouves pas qu'il boit un peu trop en ce moment, il force sur la bouteille, etc. Elle répond, oui, il boit, mais il ne fait pas que ça. Voilà.
Donc, d'accord, oui, donc ce n'est pas réducteur.
C'est pas réducteur, exactement. Et j'avais envie de faire un texte présentant à un enfant de 16 ans, enfin, à un jeune homme, lui présentant l'être humain au fond comme ça, c'est-à-dire qu'un alcoolique n'est pas réductible à sa salmanie. Pas plus que à cette salmanie-là, en tout cas, pas plus que d'autres défauts ne peuvent suffire à résumer quelqu'un. Et ça me paraissait intéressant comme démarche humaniste et comme à transmettre à un jeune, surtout un jeune d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que je suis sûr qu'il se prépare ou qu'on lui prépare une société complètement liberticide, beaucoup plus encore que celle que j'ai connue et qui était déjà, qui avait sa dose d'interdit. Je pense qu'on va vers des mondes un peu orwelliens, un peu où le fascisme est rampant, larvé, mais où il est tout le temps présent, où il est Sarkozy ou pas, peu importe le régime politique. C'est une question d'air du temps, de nouvel ordre mondial, de politiquement correct, qui fait que l'esprit de liberté, au passage, on l'a complètement laissé dans le fossé, quoi. Donc ça me paraissait intéressant de faire passer ce message complètement libertaire, puisque les raisons pour lesquelles tu boiras ou pas, voilà un vrai message. Bon, et ça me faisait c'était important pour moi de le transmettre à un jeune d'aujourd'hui.
Et bon, j'imagine qu'il, bien sûr, il l'a lu.
Oui. Il a même été.
Et
oui.
Qu'est-ce que...
Il a même une démarche intéressante qui était parce qu'il aime les livres. C'est un garçon
qui aime lire.
Et il a voulu le lire sous forme de livre, parce qu'il m'a dit pour une fois qu'on m'écrit une lettre sous la forme d'un livre, recherche midi,
sûr.
Tout ça, c'est chic.
C'est pas tous les jours, c'est sûr.
Donc je préfère attendre le produit fini. Donc il est allé chercher en librairie, il l'a lu, et son propos son commentaire est un commentaire. Alors je vais imiter son accent adolescent. Mmh. Les parents
avec
reconnaîtront.
Les mots
les parents d'ado.
Voilà,
c'est, il me dit, mais c'est très convaincant. Voilà, avec son ton. Et moi ça m'a plu que ça l'ait convaincu, parce que ce qui l'a intéressé, c'est qu'on puisse défendre un point de vue iconoclaste avec des arguments articulés, ordonnés.
Oui, parce que c'est tout à fait, voilà, comme je disais au début, c'est très bien documenté, parce qu'il y a beaucoup, alors il y a des listes, il y a des tableaux. Alors, le tableau qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire du monde au niveau...
En quelques lieux et dates, oui.
Voilà,
oui.
Avec quelques lieux et dates, et on s'aperçoit que depuis la nuit des temps, depuis toujours, depuis la création de l'humanité, finalement... Le vin, l'alcool, enfin, je veux dire, tout ce qui se rapporte à ça existe. Et puis, ça a toujours été plus ou moins encensé, quoi. Hein.
Et surtout, c'est dans notre culture depuis des
oui,
milliers d'années.
Voilà.
La Bible parle d'alcool. Enfin, il y a plus de mentions de vin dans la Bible que dans le code des débits de boissons. C'est amusant,
oui,
non, je vous assure.
Oui.
En nombre d'occurrences de mots, la Bible parle énormément de vin. On peut... avoir une quasi-certitude que la plupart des pratiques religieuses, par exemple, ont pris en compte l'alcool, comme, ou d'autres enivrants d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des pratiques religieuses on va dire exotiques, qui sont basés sur des produits stupéfiants. Bon, et de la même façon, le catholicisme et le vin sont très liés.
Liturgiquement. La messe, on boit du vin.
Oui.
Enfin, on boit pas nous, mais oui, genre pas les gens. Genre tout le monde va boire du vin à la messe. Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Il y a un peu de ça. Il y a justement. Peut-être que dans le sentiment religieux, il y a une recherche extatique, un truc comme ça. Mais en tout cas, les pratiques funéraires, liturgiques, etc., ont toujours été liées à des libations.
C'est souvent que d'ailleurs après un enterrement ou quelque chose comme, un enterrement où les gens se réunissent et vont boire un coup.
Mariage, enterrement,
voilà,
etc.
Oui, voilà, tout mariage, naissance. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas que ça choque moi. Disons que ça passe. Voilà, l'enterrement, on pourrait se dire, tiens, quand même, c'est triste et ils vont boire un coup. Mais en fait, quelque part, c'est dans l'idée.
Il y a évidemment
de réunion,
de consolation, je pense. Et puis de célébration du défunt.
Du défunt, oui, tout à fait. Donc voilà, ce tableau m'a vraiment. On apprend beaucoup de choses. Puis bon, après, il y a des listes qui sont marrantes, enfin marrantes entre guillemets. Oui, des personnages connus ou moins connus qui sont des alcooliques. voilà. Bon, alors évidemment, si on dit Gainsbourg, on va dire bah oui, évidemment. Ou Jimi Hendrix, bah oui, évidemment. Mais si on dit Jean de La Fontaine, moi, je savais pas du tout que Jean de La Fontaine était.
Alors, il est décrit par. C'était un doux rêveur et très buveur. Et il était connu pour s'endormir à table. Il était souvent invité. Et il s'endormait en fin de repas, parfois même au cœur d'un récit. Il racontait une histoire et il s'endormait sous l'effet du vin. Il aimait beaucoup le vin, mais le vin, comme bien souvent, ne change pas les personnalités. Elle se borne à radicaliser leur nature. Et lui devenait encore plus doux et encore plus rêveur, quoi, si je puis dire.
Donc il y a quelques noms comme ça qui m'ont. Il y a Martin Luther aussi, ça m'a un peu étonné. Mozart aussi.
Mozart, buveur, joueur, il était pétri de autant de défauts que de génie. Enfin,
ah d'accord. Donc on a une liste comme ça de personnages connus ou méconnus.
Ses biographes disent de Mozart qu'à 30 ans il avait déjà des bajoux. Il était déjà.
Mais il est mort jeune en plus.
Il était déjà abîmé par le.
Par l'alcool ?
Non, par la vie en général. Il travaillait énormément et il vivait beaucoup.
Il avait commencé tôt en plus.
En général, c'est soit l'un soit l'autre. Ouais.
Et puis il y a des listes. Alors voilà, on se rend compte aussi que dans les films de fiction, enfin ou dans les livres, comme dans Le Capitaine Haddock dans Tintin, qui est un buveur invétéré, avec ses bachibouzouks et ses moules à gaufres. Mais il y a aussi, il y en a d'autres. Il y a le sergent Garcia dans Zorro. C'est vrai, ça m'a rappelé qu'effectivement le sergent Garcia, il aime bien aller boire son coup à l'auberge.
Oui, c'est ça. Et j'aime bien moi, c'est les buveurs mangeurs. Moi, je suis assez comme ça aussi.
Épicurien, quoi.
Oui, voilà. Et j'aime bien. Par exemple, il m'arrive de sauter un repas si je n'ai pas de vin.
Ah oui,
parce que je me dis, j'ai pas faim si j'ai pas de vin, moi.
Ah ouais, c'est vraiment lié.
Pas vous ?
Non. Non. Non, pas moi. Et donc il y a aussi l'idée donc de l'épicurisme, comme je l'ai dit, et puis la liberté, parce qu'il y a quelque chose, à un moment vous parlez de Baudelaire et de son droit de se retirer, que l'homme n'a qu'un seul droit, c'est celui de se retirer.
Le premier droit de l'homme.
Le premier droit de l'homme est celui de se retirer, dans le sens de s'en foutre, quoi, de s'en fiche, quoi, je veux dire, de relativiser, c'est tout ce qui nous...
De relativiser.
Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un droit et c'est je dirais même un devoir, quoi, aussi.
Parce
que pour arriver à vivre bien...
Exactement.
Avec nous-mêmes et avec les autres, je pense que c'est indispensable.
Oui, et surtout avec les autres, de temps en temps, il faut leur lâcher la grappe.
Il faut lâcher prise.
et le plus sûr moyen, c'est quand même de se sentir le droit de s'en fiche. Ça, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Les gens trop concernés sont les fondamentalistes, sont les fascistes, sont les obsessionnels. Enfin, vous voyez, il faut
lâcher.
Et ça, c'est quelque chose que les buveurs savent très bien faire. La relativisation, c'est leur truc. C'est peut-être leur hobby préféré.
Oui, mais je trouve que je pense que c'est bien, tant mieux qu'il l'ait. Peut-être que ça manque à beaucoup d'autres personnes. Alors, on ne va pas leur dire, n'hésitez pas à boire un coup de temps en temps pour être plus...
Le nombre de gens que je croise, comme vous, sans doute, dans la vie, à qui j'ai envie de dire, mais détends-toi, va boire un verre.
Oui, c'est vrai.
Sans compter les politiciens, les trucs, on a tous envie de leur dire ça.
Ça.
Les gens pétris d'esprit de sérieux, vous voyez.
Ou pénétrés d'esprit de sérieux. J'aime bien votre livre. Vraiment, c'est un livre que je recommande à tout le monde parce que, bon, qu'on soit d'accord ou pas hein, sur vos idées, hein, peu importe d'ailleurs, hein, je veux dire, voilà. Mais je pense qu'il faut le lire parce que il y a plein de choses dedans sympathiques et puis intéressantes. Et puis, il y a aussi le... J'aime bien aussi parce que vous parlez des repas. Alors voilà, vous êtes un bon cuisinier alors apparemment.
Oui, j'aime bien.
Vous aimez bien manger les bonnes choses, donc vous aimez bien les préparer aussi.
Oui.
Et alors des fois les repas, c'est vrai, qui n'a pas connu dans sa cuisine un apéritif qui s'éternise en longueur pendant que un prépare à manger et on discute et on boit un coup et vas-y qu'on tourne la marmite et vous racontez ça et je trouve que c'est...
Oui, c'est un ami qui m'a fait remarquer que j'avais créé une recette qui était le soufflé au fromage au whisky. Alors, je lui demandais comment. Et bien, il m'explique que, parce que j'ai remarqué ta façon de cuisiner, c'est on prend la béchamel, on la mélange au fromage, on sert un whisky, on fait chauffer le tout, on sert un whisky, etc. etc. Et il me dit, tout est au whisky, finalement.
Tout
toutes tes recettes
sont...
Mais en réalité, c'est un art de vivre, c'est-à-dire on prépare son estomac avec sa glotte, quoi.
Mais même, je serais curieuse de goûter un soufflé au whisky, vous m'inviterez, Laurent ?
Promis.
Alors, le temps nous rattrape malheureusement. Alors, des projets, vous en avez un autre sous le coude de livres ?
Alors, je publie, je crois qu'il sort aujourd'hui en librairie, le 17 mars.
C'est le bonjour, alors.
Un manifeste contre le notariat.
D'accord.
Qui est un livre beaucoup plus sérieux. Alors en revanche, fait avec un collectif de juristes qui sont notamment des notaires, enfin des diplômés notaires, qui nous ont apporté avec Vincent Lecoq, qui est un universitaire et écrivain toulousain. Un collectif de juristes nous a apporté une matière considérable, nous permettant un travail critique sur le notariat français à l'heure actuelle. Donc là, je reviens un peu vers mes anciennes amours, l'analyse critique et systémique du droit.
Bon.
Un livre qui sort ces temps-ci.
D'accord. Et puis, sinon, vous avez autre chose
pour Oui, et puis en automne prochain, il est prévu, chez l'Archipel encore, la sortie d'un dictionnaire des causes perdues.
Ah, ça vous penserez à moi quand il sortira.
Mais un exemplaire vous est d'ores et déjà réservé.
Merci Laurent.
Presque déjà dédicacé.
Merci.
Dès qu'il est fabriqué, il est dédicacé.
Merci. Alors, donc on a amené à se revoir pour mon plus grand plaisir. Merci beaucoup Laurent Leguevac. Je rappelle le titre,
merci
Lettre
beaucoup
à mon fils lui expliquant les excellentes raisons qu'il aura de boire aux éditions du Cherche Midi. Et on se quitte avec une chanson que j'aime beaucoup de Grégoire qui s'appelle Ta main et elle est pour Denis bien sûr. Adiciat.
Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd, je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'est dur de briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre, on a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins.